Avec Saint Jean aujourd'hui, dans l'Évangile, et dans l'Épître et Saint Marc dans l'Évangile, nous découvrons, l'Église nous montre à voir qui est Dieu. Qui est Dieu en vérité? Et dans la petite Épître très compacte, le passage très compact que nous entendons de Saint Jean, en fait, il me semble qu'il a un peu tendance à résumer ce qu'il a dit auparavant. Et en fait, il nous dit, c'est tout à fait ce qu'on a entendu hier, aimer, c'est être né de Dieu. Aimer, c'est connaître Dieu. Et c'est tout à fait passionnant, parce que nous découvrons que ça veut dire qu'à chaque fois que nous posons un acte d'amour, un acte d'amour authentique, hein. Il ne s'agit pas de poser la main sur quelqu'un, de se servir, d'utiliser, de rendre un service, mais d'aimer gratuitement. Eh bien, dans cet instant, nous sommes nés de Dieu. Et dans cet instant, nous connaissons Dieu, d'après ce que dit l'Écriture. Donc c'est tout de même assez impressionnant, parce que ça veut dire qu'un acte d'amour est une manifestation de la connaissance de Dieu. Et donc un acte de haine est une manifestation de l'ignorance de Dieu. Ça laisse un peu à réfléchir. Et je trouve que ça nous conduit, moi en tout cas ça m'a fait penser au credo. Né de Dieu avant tous les siècles. Jésus est né de Dieu avant tous les siècles et il est amour. Il est le premier-né de Dieu avant toute éternité. Alors, il faut bien comprendre, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a un Dieu avant Jésus. Hein. C'est une naissance éternelle. C'est-à-dire que nous avons un Dieu qui est relation. Et non pas un Dieu solitaire, numériquement solitaire, comme le Dieu de l'islam. Voilà. Et alors c'est lié à la, c'est lié à une certaine compréhension philosophique en islam, qui est que si Dieu est relation, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à côté de Dieu. Il y a une sorte d'incapacité à l'abstraction en philosophie islamique. Et donc, c'est pas pensable. Et quand on leur dit un homme, il pense, il respire, il aime, c'est bien lui, mais c'est pas le même visage qu'il montre, ils comprennent pas. Et pourtant, c'est une analogie qui permettrait de comprendre. Donc, Jésus est amour, il est le premier-né de Dieu avant toute éternité, et Dieu est amour. Donc on pourrait dire Dieu naît de Dieu, ça on le dit dans le credo, lumière naît de la lumière, on le dit dans le credo, amour naît de l'amour. Bon, on ne le dit pas dans le credo, mais Jean nous dit Dieu est amour. Et voilà, donc ça veut dire que vraiment celui qui aime est né de Dieu. Et celui qui aime le premier qui aime, si je puis dire ma phrase, faire attention en français parce que les mots n'ont pas le même sens selon la manière dont on les place, le premier qui aime, c'est Jésus. Et qui est Dieu. Et qui est né de Dieu de toute éternité. Oui, c'est quand même assez bouleversant cette affaire-là. Et que fait l'amour? Eh bien, c'est la dernière phrase. C'est celui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés, Dieu. Et qu'a-t-il fait? Il a envoyé son amour, c'est-à-dire son Fils. Tu es mon Fils bien-aimé, c'est ce que nous avons chanté dans la nuit de Noël. Il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Donc, lorsque Dieu se tourne vers nous, en nous envoyant son Fils unique, engendré de toute éternité, amour né de l'amour, c'est pour que nos péchés soient pardonnés. C'est la souffrance de l'amour de Dieu, qu'est Dieu, c'est que nous soyons séparés de lui. Donc Dieu décide de se donner pour que nous ne soyons plus jamais séparés de lui. Enfin, disons pour que nous puissions ne plus jamais être séparés de lui, parce que reste sauve notre décision. Vous voyez, on prie plus, on ne parle plus aujourd'hui de la damnation. Il suffit de se souvenir de Paul Naref, hein, on ira tous au paradis. Je lisais une chose extrêmement bouleversante hier dans un livre sur le curé d'Ars, où une femme venait se confesser. Donc, vous savez qu'il en a confessé. Les confessions, c'est hallucinant. Il passait, je crois, il lui est arrivé de passer jusqu'à 20 heures par jour à confesser. Bon, et il y a une mère de famille nombreuse qui vient le voir et qui se plaint de c'est pas évident. Hein. Voilà, elle avait, je sais pas quel âge, hein, peut-être 40 ans, 45 ans, elle avait encore un enfant. Là, bon. Et le curé d'Ars lui a répondu une chose épouvantable, enfin pas épouvantable, mais qui aujourd'hui serait extrêmement douloureuse et qu'il faudrait prendre avec discernement, bien entendu. Il lui a dit, écoutez, oui, je comprends que vous souffriez, mais vous savez, il y a des femmes qui iront en enfer pour ne pas avoir mis au monde les enfants qu'elles auraient dû mettre au monde. Waouh ! Fin de citation. C'est... Bon. Voilà. Je ne sais pas si la citation est tout à fait authentique. Ça me paraît extrêmement sévère. Maintenant, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il peut y avoir de l'égoïsme et de ne pas vouloir mettre au monde des enfants par égoïsme, par confort personnel, etc. etc. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas la même chose que de discerner qu'on n'a pas... d'avoir l'inquiétude de se dire, c'est, oui, volontiers, mais il faut les élever, il faut les nourrir, il faut qu'on puisse faire des études, etc. Il y a tout un tas de circonstances de discernement, c'est évident. Donc c'était juste pour vous dire que c'était à partir de la damnation, je parlais de ça. Donc le curé d'Ars, lui, il était très, très bouleversé par ces âmes qui avaient une attitude qui risquait de les mettre dans une situation épouvantable. Et au fond, vous voyez, à chaque fois que nous posons un acte mauvais, nous maltraitons notre âme et nous préparons au mieux notre purgatoire. Parce que si notre âme n'a pas été suffisamment préparée par des actes bons, eh bien elle ne sera pas capable de recevoir l'ultime grâce post-mortem, après la mort, de voir Dieu. Donc il faudra qu'elle se prépare. À supposer qu'elle le puisse encore et qu'elle le veuille encore. Parce qu'à partir du moment où vous avez toujours voulu le mal, ben il y a un moment où vous pouvez peut-être probablement plus voir le bien, plus vouloir le bien. Enfin, c'est une question, mais... Voilà. Alors revenons à notre texte. Il sauve de la mort éternelle. C'est-à-dire que l'amour compatit. La compassion, ça n'est pas simplement de souffrir avec les autres, c'est d'aimer les autres au point de vouloir souffrir à leur place. À leur place. Le même curé d'Ars, on lui reprochait, ses confrères lui ont reproché plein de choses évidemment, et on lui reprochait notamment de donner des pénitences qui n'étaient quand même pas très sérieuses à des gens qui faisaient des choses épouvantables. Il ne faut pas oublier qu'on est au XIXe siècle et que... c'était de sacrées pénitences parfois. Et ce qui fait que les gens n'allaient peut-être pas se confesser, ce qui était bon. Alors lui, il considérait qu'il fallait que les gens viennent se confesser. Donc il considérait que les gens qui venaient à Ars, ils avaient fait tout un voyage, ils avaient déjà fait la moitié de leur pénitence. Donc voilà. Et en fait, il disait, voilà, vous ferez ça. Et quand le pénitent lui disait, mais enfin, c'est tout, il disait, oui, je ferai le reste. Je ferai le reste. Vous avez ça aussi dans les écrits du père Mata El-Maskin, donc est un, je crois que c'est un orthodoxe, un copte, je crois, moine copte, qui est mort il n'y a pas très très longtemps, du reste, qui a fait refleurir la vie monastique en Égypte, qui a relancé quelque chose de bouleversant. Et en fait, lui, c'est pareil, il disait, voilà, on fait un sacrifice pour les autres. On fait pénitence pour les autres, par amour. Finalement, je trouve qu'il y a un certain rapport avec ce que je disais tout de suite du père, du père Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. C'est nous participons à la pénitence que les autres ne peuvent peut-être pas faire. Voilà. Et là, vous voyez tout ce mystère de la solidarité des êtres humains. Voilà. Donc nous avons notre part, nous avons la liberté de prendre une part aux souffrances des autres. Alors si notre vie éternelle s'en trouve éclairée considérablement, il faut peut-être y réfléchir, parce que la vie terrestre, ça dure environ 100 ans, la vie éternelle, ça dure beaucoup plus longtemps. Et nous arrivons donc à l'évangile, et nous découvrons, comme par hasard, la compassion de Jésus envers la foule. Oui. Comme par hasard, encore une fois, hein, c'est voilà, Dieu est amour, et eh bien il compatit. On n'aurait pas pu trouver un meilleur évangile pour éclairer ce que Jean dit dans sa première épître. Et dans cet évangile, il apprend à ses disciples la puissance de son amour. Vous voyez, je les aime tellement que ce que j'avais peut-être prévu de faire, parce que nous ne savons pas ce qu'il avait prévu de faire. Vous voyez, il débarque sur les bords du rivage, et puis il voit une foule immense. Et là, son père lui dit, enseigne. Parce que Jésus fait toujours la volonté de son père. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Jésus n'a jamais fait sa propre volonté sur terre. Ou plus exactement, sa propre volonté a toujours été celle de son père. Ce qui est plus juste. Sinon, ça a l'air de dire que il y a forcément un conflit dans l'être humain. Non, il n'y a pas forcément de conflit. En nous, c'est assez fréquent. Jusqu'au jour où nous comprenons qu'il s'agit d'entendre, d'épouser et d'agir la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Et donc, il leur montre ce que c'est que la puissance de l'amour. Et il enseigne. Il enseigne longuement. Et puis, il commence après tous ces enseignements, les disciples en ont ras-le-bol. Bon, ça va bien, hein? On va peut-être aller manger quelque chose, quoi, parce que tu devrais les renvoyer. Vous voyez cette absence complète de compassion. Nous avons des disciples qui n'ont pas encore compris, et nous en sommes probablement, ce que c'est que d'être né de Dieu. C'est d'aimer, c'est de souffrir la faim avec ceux qui ont faim, c'est de patienter avec ceux qui doivent tous les jours patienter parce qu'ils n'ont pas l'argent d'aller prendre ce qu'ils veulent quand ils veulent, ils ont froid, ils ne peuvent pas se couvrir, etc. etc., etc. Très actuel, évidemment. Hein. C'est d'être dehors dans le froid quand on sait qu'il y a des gens aussi qui n'ont plus de maison parce qu'ils ont tout perdu. Que ce soit à Mayotte ou ailleurs dans les guerres. Voilà. Et alors, Jésus leur dit, vous êtes gentils ou? Et puisque vous avez faim, vous savez à peu près ce que c'est que d'avoir faim, bah vous allez leur donner à manger. Ah, les disciples, ils ont dû faire une tête. Je ne sais pas si vous imaginez. Ils pensaient à eux, et Jésus leur dit, maintenant on va penser aux autres. Voyez l'apprentissage que Jésus fait de ses disciples, c'est quand même assez génial. Il parle de la réalité de ce qu'ils vivent. Les brebis sans berger, j'enseigne. Les disciples qui ont faim, je leur dis, vous savez ce que c'est, alors on va leur donner à manger. Et là, ben ils disent, mais on n'a pas de quoi. Ils partent de ce qui existe. Ils partent de. Ils n'ont aucune idée de la puissance de l'amour de Dieu. Pourtant, ils connaissent les Écritures. Ils pourraient penser à la manne dans le désert. Ils n'ont pas encore compris qui est Jésus, vous voyez. Et nous-mêmes, souvent, on prend Jésus pour un médecin. Le médecin des âmes. Ah bah oui, ma bonne dame. Sauf que le médecin, on va le voir que quand on est malade. Et Dieu, il va être avec nous tout le temps. Malade ou pas malade. Donc, médecin des âmes, c'est vachement réducteur. Bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a l'épisode, je ne vais pas m'éterniser. Hein. Jésus prend les pains, les deux poissons, et il fait quoi? Il lève les yeux au ciel. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu cette parole quelque part? Au moins tous les dimanches. La prière eucharistique numéro 1. Il lève les yeux au ciel. On a repris ces paroles dans la prière de consécration de la prière eucharistique numéro 1. C'est pour ça qu'il faut faire ce geste, du reste, le prêtre fait ce geste, lever les yeux au ciel, vers Dieu son Père. Amour naît de l'amour. Il rend déjà grâce à son Père de ce qu'il va faire, de ce qu'il lui donne de faire. C'est quand même très impressionnant. Hein. Nous sommes amenés à chaque messe où il y a le. Au moins, bah, enfin, à toutes les messes, mais on le redit hein, quand on dit la prière eucharistique numéro 1. On revit ce passage de l'Évangile où Dieu nourrit au-delà de toute nourriture, quoi. Et voilà, donc pensons à tout ça, il y a beaucoup de choses à méditer hein, là-dedans. Et souvenons-nous donc, aimer, c'est être né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. Et donc ça laisse entendre que, vu que nous sommes dans le temps, avec une succession de temps, eh bien à chaque fois que nous aimons, nous sommes nés de Dieu. Au moment où nous aimons. Et quand nous péchons, eh bien, dans cet acte, nous ne sommes pas nés de Dieu. Autrement dit, nous vivons en relation permanente avec Dieu. Autrement dit, nous sommes appelés à naître éternellement de Dieu comme le Fils est né éternellement. Alors, sauf que nous, on est dans le temps, donc ça ne peut pas être une éternité qui n'a pas de commencement, mais ça peut être une éternité qui n'a pas de fin, bien sûr. Bon, tout ça laisse méditer quand même pas mal, hein.